Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 juillet 1991.
Une question qui a été posée, je peux la traiter ce soir. Rapidement, du reste, pourquoi nous qui avons reçu la pleine lumière par le Christ sommes-nous encore obligés de marcher à quatre pattes en faisant de la philosophie? Très grave question et très importante. Le Concile Vatican II nous dit l'ouverture au monde. Le monde, c'est l'ouverture par rapport aux hommes. C'est ça qui compte. Les hommes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui attendent vraiment le langage de la foi, hélas. Regardez autour de vous. Je questionne très souvent quand je vois les gens dans votre travail. Qu'est-ce qu'il y a comme chrétien? Parce que c'est là où le lieu se fait, dans la famille. Il y a encore des familles chrétiennes. Mais on les compte sur les doigts. À l'école, à la faculté, combien de chrétiens? Quand je vois d'aumôniers d'écoles libres, dites catholiques, qu'est-ce qu'il y a comme proportion de chrétiens? De ceux qui entendent vraiment un langage chrétien? Très peu. Alors, il ne faut pas que les chrétiens vivent en ghetto, ne cherchant que les chrétiens. Et ça se fait très facilement, ça. Parce qu'on se dit, ah, il va me poser des questions, celui-là, je vais l'éviter. Je ne peux pas répondre. Quand vous voyez un musulman, est-ce que vous lui parlez? Ou est-ce que vous l'évitez? Je ne dis pas que vous se jetez tout de suite auprès de lui, c'est évident. Mais si on est proche pour des quantités de raisons, parce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas très peur d'un vrai dialogue avec quelqu'un qui ne croit plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de formation profonde. Je vous donne un petit exemple qui m'avait beaucoup frappé. C'était en Suisse, quand j'étais à Fribourg. C'était les secrétaires des syndicats chrétiens, aussi bien protestants que catholiques. J'en connaissais quelques-uns. Ils m'ont dit, mon père, est-ce que vous ne pourriez pas, pendant les vacances, le temps où il n'y a plus de cours, nous consacrer quelques jours. On est une trentaine. C'était tous les secrétaires chrétiens de la Suisse romande, canton de Fribourg, canton de Lausanne, Neuchâtel, Genève. Est-ce que vous ne pourriez pas nous consacrer 3-4 jours? Je leur dis pourquoi? Pour nous apprendre à penser. Parce que nous nous trouvons en face des secrétaires des syndicats socialistes qui vont se former à Moscou. Ils reviennent, ils ont un langage dialectique et au fond, nous sommes incapables de leur répondre. Ils ont une vision de l'homme, une vision de l'univers, ils ont une certaine philosophie. d'économie. C'est très bien, mais c'est plus suffisant pour nous. On sent très bien qu'il faut aller plus loin. J'ai fait ça avec eux pendant 10 ans. Après, j'ai dû quitter. Et je voyais combien pour eux, ils l'ont dit du reste, autrement j'aurais pas continué, c'était pas pour mon plaisir, vous comprenez. Je les aimais beaucoup, il y avait des liens, puis c'était, il y avait un œcuménisme parfait, parce que c'était une matière philosophique, je leur ai dit dès le début, c'est en dehors du point de vue confessionnel. Et donc les secrétaires des syndicats protestants écoutaient aussi bien. Souvent, ils étaient plus avides que les catholiques. Une autre fois, j'ai fait exprès en disant, je ne sais pas si je pourrais revenir pour voir si vraiment ils tenaient. Alors il fallait voir. Et on faisait de la philosophie. Je ne dis pas de la haute métaphysique, mais on faisait quand même éthique et la philosophie du travail. Puis de temps en temps, un tout petit peu, quelques petites pointes, un peu plus loin. À Fribourg, je faisais un petit cours qu'on appelait la philosophie populaire, parce que c'était le soir où tout le monde pouvait venir. Pour moi, c'était le cours le plus intéressant, bien plus qu'à l'université. Parce qu'on avait des hommes et des femmes de tout âge qui venaient, toute espèce de profession qui venaient toutes les semaines, sentant le besoin absolu de faire de la philosophie. Alors, vous allez me dire pourquoi ? C'est très simple. C'est qu'on vit un monde qui n'est plus chrétien. Notre Europe a été chrétienne, mais elle ne l'est plus. En France, c'est d'une netteté et ça descend avec une rapidité. La laïcisation. Les chrétiens sont regardés comme une secte. Il ne faut pas qu'on soit une secte. On n'est pas une secte. Et pourquoi on n'est pas une secte ? C'est parce qu'on s'intéresse à l'homme. Une secte ne s'intéresse pas à l'homme. Et c'est la seule manière de leur montrer qu'on n'est pas une secte. Et qu'en étant chrétien, on est plus capable que de faire découvrir ce que c'est que l'homme. Pendant des quantités d'années, on s'est contenté d'une apologétique. Même au début du siècle, on s'est contenté d'une apologétique. Maintenant, ça ne marche plus. Et le chrétien doit pouvoir montrer pourquoi il est chrétien. Pourquoi il est catholique ? Et montrer que la foi, loin de diminuer notre capacité philosophique, l'augmente. Ça fortifie notre intelligence. Et ça permet à notre intelligence de chercher avec plus d'amour la vérité. C'est pas la peine de dire qu'on fait de la philosophie parce que les gens ont peur. On dit qu'on cherche la vérité, qu'on réfléchit. Qu'on s'intéresse à des tas de choses, qu'on a un esprit ouvert. Alors là, très très bien. Vous voyez, la philosophie, il reste avec une perspective tout à fait particulière, ça pense que c'est. Alors c'est un mot barbare. On cherche la vérité sur l'homme. Voilà ce qu'on doit dire. On cherche la vérité sur l'homme. On cherche à connaître l'homme de la façon la plus forte qui soit pour mieux comprendre l'apport de la révélation. De la foi. Pour nous, c'est ça. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est leur parler un langage humain. Pour leur faire comprendre qu'il y a des quantités de choses qu'ils oublient. Chaque fois que j'ai pu dialoguer avec un marxiste, première chose que je leur demandais, c'était de savoir s'ils étaient mariés, s'ils aimaient leur épouse. Ils me regardaient drôlement, vous disiez ça. S'ils avaient des enfants. S'ils avaient une famille, et je leur disais alors, vous aimez. C'est plus important pour vous d'aimer que de travailler. Oh, c'est sûr, bien évident. marxisme, ça vous aide beaucoup à comprendre ce que c'est que l'amour pour votre épouse? Oh non, ça ne me sert à rien. Et vous dites que c'est une philosophie humaine? Et vous venez de me dire que c'est bien plus intéressant. Vous voyez, on les prenait comme ça au bout d'un certain temps. Ils commençaient à comprendre que il y avait peut-être autre chose. Débloquer. Je crois que la philosophie nous permet d'avoir un regard sur l'homme. Et c'est pour ça que Saint-Père insiste tellement. Parce qu'il est persuadé que dans le monde d'aujourd'hui, finalement, je ne dis pas tout le monde, c'est évident que ce n'est pas tout le monde, mais quand même, même les contemplatives, en ont besoin. Parce que quand elles entrent, elles ont des tas d'idées fausses. Avant, on n'en avait pas, c'était mieux. C'est que maintenant, on en a de fausses. On a respiré un air hegélien, marxiste, positiviste. Et sans le savoir, on l'est. C'est ce qu'il y a de pire, ça. Parce que quand on sait qu'on est hegélien, c'est tout. Quand on sait qu'on est marxiste, on est marxiste. Mais quand on ne sait pas et qu'on croit qu'on est indemne, mais pas du tout. On respire ça. Vous voyez, il y a une pollution de la culture qui est pire que tout le reste. Et cette pollution de la culture, pour nous, elle vient depuis 150 ans, ces idéologies athées, qui se sont levées de notre Europe. Saint Jean dit que les antéchrists, ils viennent de chez nous. Je me pose toujours la question, est-ce qu'au fond, ces idéologies athées qui sont nées de l'Europe, qui ont gagné après l'Amérique et se sont étendues, mais le germe est européen, est-ce que ce n'est pas les antéchrists? Parce que toutes ces idéologies athées sont des anti-béatitudes évangéliques. Si je les regarde comme chrétien, c'est contre les béatitudes évangéliques. Ils sont des caricatures des béatitudes évangéliques. Alors moi, je crois que c'est bien ça, l'antéchrist. Vous voyez, on attend tout le temps l'antéchrist, un homme à moitié démon, à moitié angélique, à moitié... Et je ne sais pas. Moi, je crois que les antéchrists, c'est beaucoup plus des anti-béatitudes. Si les béatitudes évangéliques représentent la charte de notre vie chrétienne, les idéologies athées, qui sont des anti-béatitudes, sont, je crois, vraiment des antichrists. Voyez, ces idéologies athées ne peuvent se comprendre qu'à partir du christianisme. C'est ça qui est le plus étonnant. Il faut ce christianisme. À Fribourg, j'ai eu un jeune jésuite espagnol qui était soutenu par la compagnie. Il avait le temps pour son doctorat. D'habitude, ils sont toujours un peu pressés, n'est-ce pas ? C'est que là, il avait le temps. Alors, j'ai dit, écoutez, il y a quelque chose que je voudrais beaucoup faire moi-même. Je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Est-ce que vous pourriez faire ça? Voir comment toutes ces idéologies athées naissent du christianisme. Qu'elles ne pourraient pas naître dans l'Inde. Elles naissent de notre culture occidentale chrétienne. De notre culture européenne chrétienne. Corruptio optimi pessima. Hein? La corruption de ce qu'il y a de meilleur, c'est le pire. Alors, ça, c'est quand même très important de comprendre ça. Et le chrétien doit lutter contre cela. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit faire des études dans les académies, à la faculté, prendre des diplômes. Non, non, c'est pas ça. C'est s'éveiller à ce qu'est l'homme et aux dimensions de l'homme. C'est beaucoup plus ça. Et comprendre que parmi ces dimensions de l'homme, la dimension religieuse est nécessaire. Pas faire ça d'un point de vue apologétique, mais d'un point de vue de recherche de vérité. Alors ça, je crois que c'est très important dans notre monde aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'on fait cette session, vous voyez. Autrement, je ferai une session de théologie. Je ferai pas de philosophie. Quand j'ai terminé mes études, le bon père Chenu, ça date déjà un petit moment, vous voyez. Ça date de 1937. Quand j'ai terminé mes études, le père Chenu m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez enseigner au Saulchoir ?» Parce que j'étais marqué pour enseigner. Alors j'ai dit « La théologie ». Très bien. C'est très bien. Le père Chenu me disait « Il faut que le dogme soit enseigné. Et pour ça, il faut aimer la métaphysique. Si on n'aime pas la métaphysique, on ne peut pas enseigner le dogme. C'est impossible. » Et il ajoutait, vous comprenez, lui était historien des dogmes. S'il n'y a pas un enseignement de dogme, mon enseignement à moi ne signifie plus rien. Parce qu'il montrait que par l'histoire, il y avait une herméneutique. Donc il fallait de temps en temps relativiser certaines affirmations. Je comprenais très bien ça, du reste. Comme il s'appelait Marie-Dominique et moi, il m'avait patronné et j'étais sous un bon patronage. Et puis la Providence m'a envoyé à Fribourg. En 45, je devais partir à l'Institut catholique de Paris pour enseigner la philo. Et puis, la Providence est toujours comme ça. Elle vous met un petit... Et puis, ça change. Ça change. Je dis, la fidélité, c'est pas de rester dans le même lieu. La fidélité, c'est d'être fidèle à un désir de faire la volonté du Père. Alors, on est fidèle. À travers tout. Peu importe. À Fribourg, c'était enseigné la philo. Ce qui était le meilleur, c'est que je devais enseigner des matières qu'on m'avait jamais enseignées. Ça, c'est merveilleux. Parce que là, on peut être original, au moins. Et des matières importantes. Et j'ai reçu ça par un télégramme du père général de Rome. Vous devez vous rendre à Fribourg à telle date, 2 mois après, pour enseigner ces matières-là. Moi, j'ai fait un acte d'obéissance dans ma vie, parce que j'obéis. Oui, et de fait, j'ai enseigné tout le temps la philosophie jusqu'à maintenant. Avec la théologie, c'est bien évident. Parce qu'on ne peut pas, si on est croyant, faire uniquement de la philo. On fait de la philo et puis de la théologie. Ça ne peut pas être autrement. Mais vous voyez, l'avantage de faire de la philosophie, c'est que on maintient cette recherche constante. Le philosophe, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, tout le temps, tout le temps. Je ne dis pas que le théologien ne cherche pas la vérité, mais il y a un petit danger, c'est que il s'arrête. Si les philosophes, ils cherchent tout le temps, parce qu'ils savent que notre intelligence peut progresser indéfiniment. Et il y a certaines choses que je ne découvre que maintenant. Vraiment. J'ai enseigné beaucoup. Je ne dis pas d'erreurs, mais de choses imparfaites. On fait ce qu'on peut. Je n'enseignerai plus jamais maintenant. Parce qu'on découvre tout le temps. Quand j'ai dit au Saint-Père que je devais quitter Fribourg pour la limite, qu'est-ce que c'est que la limite d'âge pour un philosophe? Je suis très sympa, c'est très vrai, mais je suis fonctionnaire helvétique à Fribourg. Alors, ah, il dit, ah, je comprends. C'est vrai, il y a une limite d'âge pour l'enseignement. Il faut laisser la place aux autres. Et la Providence a voulu que je continue dans une basse école et non pas une haute école. Que je continue à l'école Saint-Jean, la philosophie, avec liberté qu'on ne peut pas connaître dans une université officielle. Et je crois que c'est cette liberté que nous devons avoir quand on enseigne la philo. La liberté qu'on a entre nous. Je ne veux pas mettre des manchettes et dire, ah, je vous dis pas ça, non, non. On pousse le plus loin possible la recherche de la vérité. Et le philosophe doit pouvoir toujours justifier ce qu'il dit. Tout le temps. Donc la critique est là tout le temps. Pour montrer que s'il ne suit pas Hegel, il est conscient de le pas suivre. Il l'admire. S'il ne suit pas Kant, je ne dis pas qu'il l'admire. Mais il ne suit pas Kant pour telle ou telle raison. Si il regarde Aristote avec amour, c'est qu'Aristote a cherché la vérité tout le temps. Vous savez cette parole d'Aristote, que peu d'hommes diraient et peu de philosophes. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait plus Platon. Mais il était capable de le critiquer, objectivement, parce qu'il aimait plus la vérité. Et c'est cette vérité qu'on doit chercher à travers tout. Donc vous voyez, le sens de cette recherche de philosophie, c'est que il est nécessaire aujourd'hui, pour être un chrétien dans le monde, pour être un chrétien, une contemplative, dans son monastère, qui aura fatalement contact avec sa famille. Si elle est ermite, on viendra la voir. Les sœurs apostoliques, on n'en parle pas. Et les frères, alors, ça, c'est forcé. On peut toujours dire, on demandera conseil. Mais si on dit ça tout le temps, chaque fois qu'on vous pose une question, non, il faut pouvoir répondre. Et alors ça aide parce que ça purifie notre intelligence. Oui, notre foi est reçue dans notre intelligence. Il ne faut pas oublier. Si notre intelligence est fêlée, vous voyez, un vieux moteur, fêlé, eh bien, on aura une peine énorme à faire des actes de foi qui cherchent la vérité. Parce que le vieux moteur fêlé s'arrête aux fêlures. C'est vrai. Quand notre intelligence est remplie d'erreurs conscientes, elle a beaucoup de peine de chercher la vérité. C'est un effort constant de rechercher la vérité. Parce qu'on ne peut jamais s'arrêter aux opinions qu'on a. On doit toujours aller plus loin. On doit être pauvre. Mais je crois que c'est quelque chose de très grand pour moi. La recherche de la vérité au point de vue humain, c'est la chose la plus grande qui soit au point de vue humain. Rien n'est aussi grand que ça. Parmi les activités humaines. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on voit que la recherche de la vérité au point de vue philosophique et la vérité qu'on a comme croyant, il n'y a pas de contradiction. Impossible. Il y a une harmonie. La philosophie ne remplacera jamais ma foi. Mais ma philosophie me dispose à la foi. Elle enlève tous les gros cailloux. Elle me dispose. Elle permet à la foi de rayonner. Elle facilite l'acte de foi. Elle permet donc à la foi d'être plus contemplative. Et c'est vrai, ça. une purification active de notre intelligence. Il y a les purifications passives qui sont faites par les dons du Saint-Esprit. Mais ordinairement, l'Esprit Saint n'aime pas de favoriser en nous la paresse. Alors si on peut faire un tout petit peu de philosophie, c'est merveilleux. Ça nous donne un air pur pour respirer. Oui, je crois que c'est bon de le dire. C'est pour vous encourager. Hein. Parce qu'au bout du deuxième jour, on dit, hein, est-ce que je vais continuer? Alors, c'est pour vous dire, allez, allez, continuez. Marthe Robin disait que c'est toujours le soir du deuxième jour que les grosses tentations de départ arrivaient. Ça, je comprends pas, c'est pas la peine. Alors, il fallait dépasser le cap. Et au matin du troisième jour, l'Esprit Saint était là pour repartir avec un nouvel élan. Je crois que c'est vrai même pour une session philosophique. Pas tout à fait la même chose, mais presque. Tentation de dire, je comprends pas, c'est ça la philosophie. Je croyais que j'allais comprendre quelque chose. Vous savez, la philosophie connaît ses nuits obscures. Elle connaît ça, la philosophie. Il faut accepter de passer par des tunnels. Puis tout d'un coup, ah, tiens, oui, on s'était disposé. Il faut travailler, continuer. Avoir des maîtres morts et des maîtres vivants. Savoir où sont les maîtres morts qui peuvent nous aider et les maîtres vivants qui peuvent nous aider. Ça, c'est très important. Seconde remarque. Hier, je vous ai dit, et je vais continuer avec vous du reste, le soir, on peut regarder la Bible, un merveilleux livre de philosophie, mieux qu'Aristote, mieux que Platon, mieux que tout le reste, mieux qu'Hegel. Hegel a puisé dans la Bible. C'est pour ça qu'il pouvait dire ce que je vous ai lu ce matin. Pourquoi, premier acte d'Adam, os de mes os, chair de ma chair, c'est son Magnificat. C'est merveilleux. Le Magnificat, de trouver un être semblable, qu'on aime, avec qui on pourra communiquer les secrets de son cœur. C'est merveilleux, ça. On n'est plus seul. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il a fallu que Dieu, je dis une hérésie, fasse cette expérience que l'homme seul ne peut pas avancer. Il tourne en rond. Je crois qu'Adam tournait autour du petit jardin de l'Éden tous les jours en regardant à l'horizon s'il n'y a pas quelqu'un, en ouvrant des portes, en disant l'Éden, mais ouvrez, ouvrez. Il y avait des animaux qui venaient, et des animaux très particuliers, qui n'étaient pas méchants parce qu'Adam était bon. Tu as dit, il est triste. Ça va pas. Et alors, à ce moment-là, Dieu a plongé Adam dans la torpeur, sans rien lui dire, et en lui faisant un cadeau merveilleux, comme Dieu seul peut le faire. Ève. Oui, quand on dit que Marie, la nouvelle Ève, ça prouve qu'Ève était bien. C'est vrai. Adam et Ève étaient des êtres parfaits. Selon l'Écriture et selon toute la tradition. C'est dans ce sens-là que, quand je prends le point de vue de l'évolution, ça ne colle pas très bien. Adam et Ève étaient des êtres parfaits. Ça, c'est sûr. Puisqu'ils avaient une responsabilité unique sur toute l'espèce humaine. Avoir la responsabilité sur toute l'espèce humaine, ça prouve qu'ils avaient une dignité, une conscience, une intelligence supérieure. Autrement, ils n'auraient pas eu cette responsabilité. Or, le péché originel, présuppose cette responsabilité sur toute l'espèce humaine. Alors, premier cri d'Adam, admiration devant Ève. Ose de mes os, chair de ma chair, c'est tellement beau ça, que le cœur de l'homme, après s'être tourné vers Dieu, se tourne vers l'être que Dieu met tout proche de lui. Dans un regard à la fois divin, de charité, et un regard humain. On ne dit rien sur Ève. Elle était heureuse, sûrement, d'entendre Adam lui dire « Ose de mes os, chair de ma chair. » La petite Ève. Elle était heureuse d'être appelée par Adam, puisque c'est Adam qui l'a appelée, qui lui a donné son nom. Ève commence par défendre ce que Dieu a fait. C'est quand même la première parole d'Ève. C'est de défendre ce que Dieu a fait en face du serpent qui était le monde. Hein, comprenez ? C'était le monde. Parce qu'il y avait la famille. Puis à côté, il y avait le monde, en dehors de la clôture de l'Éden. Toujours dangereux de passer la clôture. On rencontre le serpent. Qui ricane. Dieu dit ça avec une ironie extraordinaire. Mes pauvres, dans quel état vous êtes? Un état d'esclavage. Vous êtes dans un état d'esclavage. Et tout de suite, il essaie de découvrir le secret d'Ève, la curiosité du démon. Cette petite communauté qui a été créée malgré lui, il ne faut pas l'oublier. Le péché du démon, c'est d'avoir refusé que Dieu fasse son chef-d'œuvre au-delà des anges, qu'il fasse son chef-d'œuvre dans les dernières créatures qu'il voulait créer. Il a communiqué ça aux anges. Les anges étaient créés dans la foi. Et les anges ont une épreuve. Et le démon a refusé de regarder avec admiration les petits derniers, l'homme et la femme, créé par Dieu comme le chef-d'œuvre de Dieu. C'était furieux de ne pas être le chef-d'œuvre de Dieu. Vous voyez tout de suite l'orgueil. Pas être premier. Pourtant, ils étaient très bien. Et Lucifer était une très belle créature. Très, très belle. Il a refusé. Alors, on comprend très bien. Toi, tu es l'occasion de ma chute. Ça n'avait pas des rapports très, très, très amicaux, ça. Pour un orgueilleux, c'est toi. Alors, ce mépris pour Ève, un mépris souverain, avec un désir intense de l'écarter de Dieu, et qu'Ève le suive, pour gagner un point sur Dieu. Pour montrer que Dieu s'était trompé et que lui avait raison. Que le chef-d'œuvre de Dieu se révolterait contre Dieu. C'est un beau chef-d'œuvre, ça. Il y a tout ça. On peut le dire. Hein, parce que c'est l'intention nette du serpent. De faire dévier Ève de sa foi. Et le premier mouvement d'Ève est beau, il est grand, c'est sa foi, sa confiance en Dieu. Mais elle, qui s'est mise à parler au serpent, elle se laisse prendre au jeu. Et c'est là la faute d'Ève. Faute d'orgueil. Vouloir à tout prix enseigner. Apprendre quelque chose au serpent. Quelque chose que lui ne sait pas. Elle a un secret que lui n'a pas. C'est difficile de garder un secret devant quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que vous et qui arrive à essayer de vous détourner. Alors on voit la faute d'Ève. Elle communique un secret alors qu'elle n'avait pas le droit de. Ce secret l'a lié à Adam. Ce secret l'a lié à Dieu. Et vous savez bien qu'un secret, c'est une très grande force. Dans Mort sans sépulture de Sartre, il y a un passage très étonnant où Sartre parle des maquisards qui étaient pris et qu'on essayait de saisir leur secret, le secret de toute la bande, les noms de tous ceux qui étaient liés. Et c'est pour ça qu'on les torturait. Et Sartre fait cette réflexion qui est tellement juste. Tant qu'ils avaient un secret à porter, ils étaient forts. Et lorsqu'ils livraient leur secret, ils n'avaient plus aucune force. Parce que quand on porte un secret, on est lié à celui qu'on aime. Ceci est vrai dans l'ordre humain et dans l'ordre divin. C'est propre de l'amour. Parce que tout secret provient de l'amour. C'est quelqu'un qu'on aime et qui nous a transmis un secret. Réfléchissez au premier secret que vous avez porté dans votre vie. Il y en a toujours un premier, sans faire de psychanalyse. Premier secret que vous avez porté. Comme vous vous êtes senti grandir, si ce secret venait de quelqu'un de plus âgé que vous, et qui vous a dit « je te confie ça parce que je sais ». Que tu ne le diras à personne. Je te le dis parce que il faut que tu pries pour ça. Il faut que tu m'aides pour ça. On se sentit agrandi. Le secret est nous la personne, de façon très étonnante. Parce que c'est à nous l'amour. Ça vous valorise, porter des secrets. Il ne faut pas faire porter des secrets aux trop petits. Quand un homme est capable de porter un jeune homme, un adolescent est capable de porter un secret, sa personnalité se noue. Il ne faut pas qu'il se noue trop vite. Et quand on livre un secret, on est perdu. On trahit. Livrer un secret, c'est trahir. Ça ne nous appartient pas, un secret. C'est un droit naturel de garder les secrets. Et on le sait très bien, c'est pour ça qu'en temps de guerre, il y a la torture. Ça ne légitime pas la torture. Parce que torturer quelqu'un pour qu'il livre un secret, c'est le détruire à sa propre conscience. Il n'y a rien qui détruit plus quelqu'un que lorsqu'il livre un secret. Alors quand, par la torture, On veut acquérir un secret. Je sais, c'était des grosses, graves questions, très graves questions, au moment de la guerre d'Algérie. On sait qu'il y a un secret, il y a des bombes à tel endroit. Si on livre ce secret, si on arrive à connaître ce secret, des quantités d'hommes ne mourront pas. A-t-on le droit, à cause de ça, de torturer? Oui, toute la différence entre la mort physique et la dignité de la personne. D'un côté, l'efficacité, de l'autre côté, la dignité de la personne. C'est important de réfléchir à ça, parce que ça revient tout le temps, vous savez. Terrible de réduire un homme par la torture, de le détruire lui-même en montrant qu'il est incapable de garder un secret. Alors quand les tortures sont très fortes, on n'a plus, sauf des gens qui sont des saints. Les saints peuvent, mais il n'y a que les saints. Il faut une force qui vient d'en haut. Alors vous commencez à comprendre comment. Le premier moment, c'est le Magnificat, l'admiration d'Adam. Premier moment, la défense de Dieu. Puis l'aspect négatif ne vient qu'après. Donc hier, quand j'ai dit l'aspect négatif tout de suite, c'est faux. L'aspect négatif vient après. Après, le témoignage de la foi. Mais le témoignage de la foi n'est pas suffisant. Ève n'avait pas fait de philosophie. Comment elle aurait vu le sophisme du serpent? Elle aurait vu le sophisme. Elle aurait dit, tais-toi, tu dis des bêtises. Non, elle n'a pas fait ça. Mais c'est intéressé. Il paraît intelligent. Puis on est toujours flatté quand on vous interroge pour communiquer un secret. Et Ève a communiqué un secret, le secret de cette petite communauté. Ça, c'est terrible. Alors, on voit tout de suite le péché. Alors, le péché premier, c'est livrer ce secret par orgueil, qui conduit à la désobéissance. Le second péché, vous connaissez ça. Cain et Abel. C'est la jalousie qui conduit au fratricide. Quand on est jaloux, quand on est très jaloux, on est capable de faire n'importe quoi, de supprimer celui qu'on jalouse. Troisième péché, l'iniquité généralisée. Avec Noé. Noé qui n'est pas. C'est Noé qui vient sauver. Quatrième péché, à l'intérieur de la famille de Noé. L'ivresse de Noé qui donne l'occasion à un de ses fils de ne pas respecter la nudité de son père. Un péché mystérieux, ça. Et cinquième péché, la tour de Babel. C'est très curieux, hein. Et c'est un fait, hein. Regardez attentivement, vous voyez que c'est un peu toute l'histoire de l'humanité, la maquette. Je crois que les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est la maquette de l'humanité. Vous ponctuez ça négativement. Parce que c'est toujours par l'aspect négatif que les choses prennent toute leur force. Et alors vous voyez, ces cinq moments de l'humanité, ils sont faciles à comprendre. Chassés du paradis terrestre. Seconde faute, Cain, le fils aîné, qui tue le Benjamin par jalousie. Les grands prêtres, empêcher l'iniquité généralisée. Et le Christ, nouveau Noé, qui vient sauver les hommes. Alors, l'ivresse de Noé à la croix. Faut pas l'oublier. Et devant la croix, ceux qui sont fidèles, malgré la nudité de celui qui l'a envoyé de Dieu. Jésus à la croix est dans la totale pauvreté. C'est ça la nudité. C'est la totale pauvreté. Réduit à rien, comme un ver de terre, dit le prophète. Alors on se détourne de lui. Qui peut le regarder? Ou au contraire, on est tout proche et on l'aime dans son échec. Et dernière faute, la tour de Babel. L'humanité s'unifie et l'humanité prétend ne plus avoir besoin de Dieu. Il n'y a plus de place pour Dieu. Je crois que c'est ce que nous vivons, la tour de Babel. J'ai entendu, il y a quelques années, des souhaits de l'ange, je ne sais plus c'était quel poste de TSF. Vous tous qui travaillez avec nous, à la tour de Babel, l'humanité qui veut acquérir sa pleine autonomie. Bonne année. Ça vous fait un petit choc, ça. La tour de Babel, l'humanité qui veut s'unifier indépendamment de Dieu. Il veut se glorifier indépendamment de Dieu. C'est le dernier moment. C'est très curieux. Réfléchissez à ça, parce que c'est intéressant de voir négativement cette petite maquette de l'humanité. Et à partir d'Abraham, c'est l'histoire qui commence. Alors c'est beaucoup moins métaphysique. C'est l'histoire qui commence. C'est Abraham. C'est la foi aussi. Alors, si je regarde attentivement ces 11 premiers chapitres de la Genèse, dans la perspective que nous nous mettons, c'est-à-dire dans cette tradition religieuse, découvrir ce que c'est que l'homme, je vois que l'homme crée à l'image de Dieu. Il y a la ressemblance. Quelles sont ces dimensions de l'image et de la ressemblance de Dieu? Je regarde le texte de l'Écriture. Premièrement, dominer. Dominer l'univers. Ça c'est sûr. Par le travail. Deuxièmement, il demandait à Adam de nommer toute chose. C'est lui qui doit nommer toute chose. Donc l'intelligence nommée. Troisièmement, os de mes os, chair de ma chair, l'amour. J'allais mettre l'amour d'amitié. Je crois. Ce sont les trois dimensions de l'image de Dieu. Je confirme cela par, toujours, par ce qui nous est montré, les péchés de l'homme. Première faute, l'orgueil. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Faire passer l'intelligence avant l'amour. C'est ça l'orgueil. L'exaltation de l'intelligence. C'est ça la première faute. Deuxième faute. La jalousie de Cain. Cain n'accepte pas qu'Abel puisse adorer mieux que lui. Parce que lui, il a un droit d'aînesse. Il est l'aîné. Cain adore, on verra mieux ça quand on verra l'adoration. Un œil sur Dieu, un œil sur le petit Abel. Il louche. Quand on adore, on n'a pas le droit de loucher. On doit être tout entier reclus en Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'est? L'exaltation de son droit d'aînesse. Le droit, la domination. C'est un tyran. N'accepte pas qu'Abel passe devant lui. Ce qui amène l'iniquité généralisée. Donc, la destruction du droit de chacun, la justice. Ah, vous voyez, c'est intéressant. Parce qu'on voit que le démon ne veut pas l'ordre voulu par Dieu, l'image. Et si je suis attentif à ses péchés, péché, Ève, ici c'est Cain, ici c'est le peuple. Le démon veut détruire l'ordre voulu par Dieu. Donc je peux, en regardant ces différents péchés, comprendre que l'homme est à l'image de Dieu si sa capacité de dominer est ordonnée à l'intelligence et si l'intelligence est ordonnée à l'amour. Il y a un ordre voulu par Dieu. Et que toute la tactique du démon, c'est de faire que l'intelligence passe avant l'amour et que le dominium passe avant l'intelligence et avant l'amour. Le dominium, ça peut être commandé par une efficacité au-dessus de tout. Ceci au niveau individuel, personnel, et au niveau collectif. Vous voyez comme c'est éclairant sur ce que nous voyons. Aujourd'hui, dans notre culture d'aujourd'hui, qu'est-ce qui domine? Est-ce l'amour? Est-ce l'intelligence? Est-ce la capacité de dominer? Une efficacité. On aurait des tas d'exemples, hein, c'est pas la peine de les donner. Vous les comprenez tout de suite. Mais ça, c'est très important de comprendre ça. Voilà ce que on peut dire, une tradition religieuse montre qu'est-ce que c'est que l'homme. L'homme, dans la lumière de Dieu, implique ces trois aspects, dominer, l'intelligence, l'amour. Et c'est vrai, l'image de Dieu implique ces trois. Mais selon un certain ordre, en aimant le prochain et en aimant Dieu, l'homme acquiert toute sa dimension. Pour aimer Il doit cultiver son intelligence. Mais il faut que sa capacité de dominer soit au service de la recherche de la vérité et la recherche de l'amour.